du tout.
C'est un Basket Time spécial Orlando Magic. On a donc fait un petit détour par l'Allemagne à cause des frères Wagner, mais on va retourner à Orlando en Floride tout de suite.
Onto the second round of these playoffs.
That was the first dunk for Howard, who easily leads the league in dunks. Evans knocked it away. Turkaloo gets it back to Mo.
Michael Petras throws it down. The lob for Howard. That was one angry slam. Howard at the buzzer. Dwight Howard climbs through the roof.
Turkaloo on the deck. Here's Turkaloo for the win.
Alors, dans cette partie historique, nous allons parler d'une période qui aurait pu changer toute l'histoire de la franchise d'Orlando, le Magic de Dwight Howard. Et pour en parler, nous accueillons avec grand plaisir Mike Pietrus, qui a fait partie de cette équipe avec Dwight. Salut Mike.
Salut les gars, vous allez bien?
Salut Mike. Salut
Mike. Mike, on va te rafraîchir. Va, hein, tu vas nous rafraîchir la mémoire, on va raviver des vieux souvenirs. Je pense assez agréable quand même. Rappelons que Dwight Howard, drafté en 2004, va redonner un élan incroyable à cette franchise qui avait fait une finale déjà en 95. Et donc, en 2009, 5 ans après sa draft, il retourne en finale, Sacha.
Ouais, c'est ça. Bah, Dwight Howard qui était un peu la résurrection du Shaq. Hein, c'est une espèce d'héritage qui s'est prolongé. Le Magic qui a marché sur la saison régulière pendant une grande partie de la saison jusqu'à la blessure de Jameer Nelson, qui est arrivé avec une équipe qui est construite avec des joueurs très intéressants. Raphaël Alston qui donc
Skip to Milo,
ouais, qui sera le backup justement de Jameer Nelson, qui va beaucoup jouer cette saison là on pense effectivement à Edo Turkoglu également, Rashard Lewis, mais bon, Dwight Howard qui est deuxième au titre MVP cette saison là qui marche sur toute la ligue. Moi, j'ai personnellement le joueur qui m'a le plus traumatisé dans cette époque-là. Enfin, c'est trop facile pour lui ce qu'il fait. Il roule sur toutes les équipes, que ce soit en attaque ou en défense. Jameer Nelson, c'est la parfaite rampe de lancement pour ce joueur-là. Et c'est surtout cette équipe qui nous a privé d'un duel LeBron James-Kobe Bryant en finale NBA. Je pense que beaucoup voulaient voir. Mais franchement, c'est mérité parce que vu la façon dont ils vont sortir Cleveland, qui était quand même leader de saison régulière, c'est très très fort. Et
avec 66 victoires à l'époque. Hein. C'est quand même monstrueux. Hein.
Après, je pense que Orlando, si Nelson se blesse pas, clairement, il roule sur la saison régulière aussi. Ils finissent numéro 1. Et voilà, c'est la saison où en fait, ils réécrit l'histoire de ce qu'ils avaient vécu en 95-96. Ils vont en finale, ils vont gagner leur premier match de finale à ce moment-là. Nelson revient d'ailleurs pendant les finales. Ce sera pas suffisant parce que en face, les Lakers, c'est quand même très 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 solide. Et je pense que oui, on peut parler aussi de Mike Pietrus qui a eu ce rôle de défendre sur Kobe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu un morceau de Lil Wayne qui a été fait sur Kobe Bryant où on reprend les mots de Mike Pietrus qui parle de Kobe. Et je trouve que ça représente bien parce que quand il le décrit, c'est un passage mythique de la chanson et ça représente bien ce qu'était défendre sur Kobe. Et donc, je suis très content que Mike soit là pour en parler aussi.
Alors, il va nous parler de Kobe, Mike. D'abord, dis-nous un mot sur cette équipe que toi tu intègres en 2008. C'est-à-dire qu'elle a déjà. Elle a déjà un vécu, elle est déjà forte quand tu arrives, Mike.
Bon, elle a déjà une histoire. Je dirais que quand je suis arrivé dans le club, le but, c'était clairement avec Dwight Howard qui était en pleine forme. Le but, c'était d'aller en finale NBA et de créer quelque chose. Et on avait en tête ce duo Penny Hardaway, Shaquille O'Neal, avec Michael Jordan qui prend la balle sur Nick Anderson. Donc, on voulait répéter un peu l'histoire du club en faisant la même chose qu'en 95. Et puis on s'est retrouvé en 2009-2010 avec une très forte équipe d'Orlando Magic. On était complet. Notre âme, c'était focaliser Dwight à l'intérieur. Et puis avoir ses snipers autour, c'était comme protéger un président. Et puis nous, on était là pour tirer en cas d'urgence.
Écoute, parle-nous de la finale, Mike. Est-ce que tu as des regrets sur cette finale? Parce que le score, c'est 4-1. C'est le premier match que la franchise gagne dans une finale NBA.
Ouais, peut-être. Ils avaient pris 4-0 en 95.
Exactement. Peut-être qu'il y avait un manque d'expérience, mais est-ce que c'était pas juste les Lakers qui étaient trop forts globalement?
Non, je pense que les Lakers, ils étaient forts. Clairement, ils étaient forts, mais je pense qu'on pouvait les battre cette année-là. Je pense que, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos à l'époque, en 2009, notre deuxième match, où Courtney, il met la balle à la dernière minute, mais Gasol, au fait, il met sa main dans le panier pour retirer la balle. Et donc, je pense que là, ça aurait pu tout jouer avec notre confiance.
Ah, vous êtes fait voler, c'est ça que tu veux dire?
Non, on ne s'est pas fait voler. Mais à l'époque, il n'y avait pas le système de vidéo où pouvait vérifier chaque action. Donc, je pense que les Lakers étaient vraiment forts parce qu'ils avaient les Bynum à l'intérieur, Gasol, ils avaient le Black Mamba d'Eric Fischer. Je pense qu'ils étaient vraiment au-dessus de nous. Et je pense que ça a été une belle expérience. Nous, notre but, c'était de faire en sorte que ce 2009-2010 soit historique pour la NBA. Je dis pourquoi ? C'est-à-dire que tout le monde voulait voir Kobe contre LeBron. Et donc, nous, notre but, c'était d'empêcher ce moment.
Et donc, c'est ce que vous avez fait en finale de conférence, donc en sortant les Cavs de LeBron.
Ouais, c'est ça qu'on a fait. LeBron, c'était le meilleur joueur du monde. Moi, je voulais m'affronter au meilleur joueur du monde. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, je vais tenter quand même. Et je n'ai pas peur de l'affronter. Donc, je le regardais bien dans les yeux.
Mike, c'est qui le plus dur à défendre, LeBron ou Kobe ?
Ah, le plus dur, c'est Kobe Bryant.
C'est Kobe.
Le plus dur, c'est Kobe. C'est-à-dire que quand il a la balle en main, il a 150 façons de scorer. Et donc, le plus important, c'est de se concentrer de la première action à la 150e. Mais c'est vraiment dur.
LeBron, c'est un peu plus brut de décoffrage, c'est un peu la puissance.
Ouais, c'est un peu la puissance, c'est un peu comment dire, c'est comme si vous avez un TGV qui vous arrive en face. Donc, il est vraiment dur à arrêter, surtout sur sa main droite. Et puis, je pense qu'il a vachement progressé ces quelques dernières années où il a plus fait confiance à son shoot. On voit bien que LeBron, il est plus percutant sur le drive. Après, il a l'âge aussi, mais je pense que c'est la longévité de LeBron James, c'est exemplaire pour tous les joueurs qui rêvent d'NBA.
Et alors, quand tu défends sur un Kobe en finale NBA, comment ça se passe sur le terrain ? Est-ce que ça parle beaucoup ? Est-ce qu'ils essayent de te déstabiliser ? Est-ce qu'il y a du trash-talking ?
Non, il n'y a pas de trash-talking. Et au fait, après le troisième match à Orlando, parce que Kobe Bryant, c'est quand même un très, très grand joueur, c'est une légende. Mais quand vous voyez ces statistiques en play-off finale NBA, c'était 8 sur 40 au shoot ou 9 sur 36.
C'était une belle croquette. Hein, quand même.
Ouais, mais c'était un excellent défenseur, belle croquette, Mike
mais aussi. Moi, ça faisait plaisir de le défendre parce que vous l'aviez à la télé, moi, je l'avais en face de moi. Et je voyais tout le talent, je voyais la légende se défiler devant mes yeux tout en essayant de l'arrêter. Il y a des fois, je l'ai arrêté, mais il y a des fois, j'ai pris cher comme tout le monde, mais ça fait partie de la légende de Kobe Bryant. Et puis à la fin du match,
c'est partie de la légende de Mike Pietrus aussi d'avoir défendu sur Kobe, tu sais.
Ouais, à la fin du match, il vient me voir et il me dit mais tu commences à me faire chier. Comment ça se fait, tu connais tous mes moves? Ben je lui dis ben écoute, tu scores 60 points, tu es Kobe Bryant, ce qui est normal. Mais tu scores 25, le crédit, tout est pour moi. Après, il a rigolé et puis on est parti comme ça.
Et comment ça se fait alors que tu connaissais tous ces moves ? Est-ce que tu l'as beaucoup étudié avant la finale ? Parce que là, on rigole, c'est sur un ton léger, mais c'est très sérieux tout ça. Est-ce que tu avais beaucoup bossé ton Kobe Bryant ?
Au fait, cette année-là, on avait Philly, on avait LeBron et en finale, on ne savait pas qui allait jouer. Donc, je suis tombé sur Kobe Bryant. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les playoffs, c'est-à-dire que quand on a joué Cleveland, j'ai dit au coach, j'ai pas besoin de stratégie d'équipe, laisse-le-moi, je m'en charge. Et vous allez vous adapter à ma défense. Et en fait, c'est comme ça qu'on a continué à avancer.
Et Stan Van Gundy, t'as dit OK, Mike ?
Oui, Mike, oui, tu as
Stan
raison.
Stan Van Gundy m'a dit OK.
Ça l'arrangeait.
Non, il m'a dit OK parce que personne ne savait comment l'arrêter. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que moi qui.
Alors, c'est sûr que ce n'est pas Turcoglu qui allait défendre, Mike. Hein.
Ouais, mais Turcoglu était là pour distribuer les caviars. Donc mon but c'était de me focaliser, mais je me suis dit bon, je vais tenter la défense, mais il faut pas que les mecs ils me regardent qu'en défense aussi. Donc c'est pour ça que après j'ai activé mes shoots à 3 points, et puis c'est pour ça que je pense que Orlando, ils ont fait une belle année cette année-là, et puis c'est dommage.
T'as encore des contacts avec tous ces mecs là, notamment Turcoglu, Dwight Howard, Jamir Nelson, compagnie.
Ben Dwight, je l'ai texté il y a 2 jours.
Tu vas aller le voir à Taïwan ou quoi?
Non, parce que pour moi, c'est le plus important pour lui, c'est pas d'aller à Taïwan. Pour moi, le plus important pour lui, comme il a fait une pige à Golden State, après, il voulait aller à Boston. Donc, je lui ai dit que le plus important, c'est de te concentrer sur les 3 prochaines années parce que tu as le Hall of Fame qui va arriver. Et donc, beaucoup de personnes se posent la question si tu as un Hall of Fame ou pas. Donc, c'est un peu, je lui ai parlé un peu de nettoyer son image un peu par rapport à tout ce qu'il a en dehors du terrain.
Arrêtez avec l'histoire de meuf, hein, surtout.
Ouais, après, chacun fait comme il veut.
Mais il était comment? Parce que Dwight Howard, on l'a vu ultra dominant aussi, parce qu'on parle de Kobe, mais on va parler de Dwight Howard. Moi, je suis un pivot, donc je vais m'attarder sur ceux qui m'ont impressionné. Comment il était vraiment au jour le jour, physiquement? Comment il dominait autant, en fait?
Ben c'était impressionnant de le voir à la musculation, en fait.
Mec, il a des épaules.
Et ouais, il a vraiment des épaules, on dirait deux puces de dinde. On dirait que c'est, quand ouais, chaque fois tu vois des épaules, on dirait les dindes pour Thanksgiving qui te regardent, mais en fait, tu vois Dwight Howard. Mais il était impressionnant, parce qu'il venait très tôt le matin, il partait très tôt le soir. Donc, au fait, il nous motivait à nous entraîner, la muscu, tout ça, et donc, c'était vraiment un leader. Et puis, bon, je pense que les deux parties ont un peu paniqué. C'est-à-dire que je me rappelle qu'on a fait le transfert pour Vince Carter. On n'était pas si mal que ça en 2011. Mais après, ils ont voulu faire exploser l'équipe. Et depuis ce jour-là, Dwight n'a jamais été Dwight.
Non. Alors ça, justement, on va en parler. Juste un mot d'abord. Est-ce que toi, tu dirais que c'est le meilleur pivot avec qui tu es joué? En tout cas, un mec unique.
Je dirais, j'ai pas joué avec des meilleurs joueurs. J'ai plutôt joué avec des copains. C'est ce qui sont venus aujourd'hui de la famille. Donc, moi, j'appréciais chaque joueur. Vous savez, la NBA, c'est une famille. Donc, moi, j'appréciais chaque joueur. Hein. Même pas en NBA, même à une équipe de France avec Stéphane Bourronci, c'est quelqu'un que quand je le vois à la télé, qui fait ses, je trouve ça impressionnant.
Donc j'ai compris, tu veux pas dire que Dwight est le meilleur parce que tu as joué avec Fred aussi, c'est pour ça.
Oui, j'ai joué avec Fred à l'époque, j'étais jeune, ma première sélection en Turquie. Donc non, mais vous avez des mecs qui sont sur le plateau, Fred Weiss, Stéphane Bros, c'est des mecs qui ont quand même eu un impact dans le basket français et qu'on ne met pas en avant. Donc aujourd'hui, c'est ce que ce serait notre but de mettre en avant toute l'histoire du basket français.
D'ailleurs, ils sont dans les légendes de la LNB, on peut le signaler. Je vous félicite. Oui. Au passage, Steve.
Non, Mike, ici, il y a Pierre Dorian, qui est journaliste, qui présente l'émission. Pierre Dorian est fan de Baron Davis.
C'est vrai.
Mike, je t'en veux parce que tu as joué avec Baron Davis et vous avez tapé les Mavs sur un exploit. Donc il faut que tu dises à Pierre Dorian comment était Baron Davis, quel joueur c'était, quel mec c'était, parce qu'il en kiffe sur Baron Davis.
Mais Baron Davis, c'était un joueur très explosif. C'était un joueur, c'était le meneur leader de la NBA dans les années 2000 à 2010. Et je pense que tout son parcours à UCLA, il faisait rêver beaucoup de personnes. Moi aussi, il m'a fait rêver. Donc moi, jouer avec lui, c'était un plaisir. Il te rendait la tâche plus facile. Il te disait, bon, place-toi là, donc tu auras la balle. Et si tu te places pas, bon, tu l'auras pas la prochaine fois. Donc c'est des joueurs emblématiques comme ça que j'ai pris plaisir à jouer avec
eux. Il t'a te marre dessus déjà ou pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais pas du tout. Mais qu'on a battu Dallas à l'époque, on avait un coach qui était exemplaire, c'était Don Nelson.
Oui.
Et donc je sais pas, tout était beau en fait, tout était parfait. C'est-à-dire que on arrivait à l'entraînement, une anecdote, c'est-à-dire on arrivait à l'entraînement. Et il y avait le chien qui était là, il jouait avec les ballons. Et donc, comme le coach, il voulait aller promener son chien, il nous disait, bon, les gars, un lancer foin et rentrez chez vous. Comme ça, le chien, je peux aller le promener. Et donc, toute l'année, on faisait que ça, en fait. Et après, le jour où on a tapé Dallas, on s'est dit, bon, les gars, le Don Nelson nous a dit, bon, les gars, je les ai coachés, c'est mon équipe, on va les battre. Et au fait, ils pouvaient pas nous jouer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on a eu un impact, mais quand je vois le We Believe 2, j'ai l'impression de nous voir avec moins de talent et avec les Stephen Curry qui ont gagné plus de titres.
Oui.
Donc aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de voir ce sort de basket, parce qu'à l'époque, quand nous, on jouait ce style de basket, beaucoup de gens en Europe, en NBA, ils ont dit bon, ils ne gagneront jamais de titre avec ce style de jeu. Ben, tout le monde l'a adopté.
Mais c'est vrai que c'était un joueur très spectaculaire. Tu dis que j'adore, c'est la vérité, parce que voilà, bon, Golden State à l'époque, moi j'avais pas d'affinité particulière, mais ce mec-là, il te faisait kiffer. Si t'aimes un peu le sport, je te dis même pas le basket en général.
Il y a un Thomas sur André Kirilenko.
Hyper juteux, hyper tonique, et puis très spectaculaire de toute façon dans tous ses moves. Et alors là, on est sur l'époque Golden State. On va revenir au Magic d'Orlando. Dernier mot quand même sur cette partie historique. Comment vous expliquez le déclin aussi précoce de Dwight Howard, qui était un mec peut-être amené à régner sur la NBA beaucoup plus longtemps?
Oui,
il a des bons débuts à Houston.
Il a régné sur la NBA.
Et puis d'un coup, ça s'est arrêté.
Le problème, c'est que Dwight Howard, quand il est à Orlando, c'est l'option numéro une. On joue tout pour lui. C'est un monstre. Il est 3 fois défenseur de l'année. Il est 8 fois All-Star. Faut pas oublier que la Redeem Team en 2008, il fait partie de cette Team USA avec ce match fantastique contre les Espagnols. C'est un rebondeur contreur hors norme. Il a toujours été l'option numéro une. Quand il quitte Orlando,
Après, il arrive, il va aux Lakers, il est obligé de jouer avec Kobe Bryant, donc c'est plus l'option numéro une. Il va à Houston, il joue avec James Harden, c'est plus l'option numéro une. C'est pas, les ballons ne passent plus par lui. Donc il est là aussi un peu le déclin de Dwight Howard.
Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le fait aussi que ce soit, c'est un joueur tellement dominant physiquement qu'à un moment, bah, tu déclines un peu physiquement et donc c'est plus difficile de s'adapter. Parce que ce mec, il faut se rappeler quand même qu'il a gagné un concours de dunk en jouant Superman. C'était un mec qui sautait comme un animal. Et forcément, bah, il y en a d'autres. Il y a plein de cas quand même en NBA où des mecs dominants physiquement ont dominé la NBA, mais dès qu'ils l'ont été un peu moins, ils ont eu du mal à trouver des solutions pour changer
puis,
ça.
Et puis les mains pleines de pouces parfois au lancer franc. Mike, il a envoyé des briquettes au lancer franc, Dwight.
Ouais, mais comme, c'est comme Shaq aussi.
Oui.
Il était moins pire que Shaq, non?
Enfin, je l'ai vu faire des trucs, il touchait pas le panier, hein, quand même.
Ouais.
Non, mais, de temps en temps, bon, ça arrive de temps en temps.
Ça arrive à tout le monde, Mike.
Mike, c'était jamais arrivé, toi, de pas toucher le panier.
Si, ça m'est arrivé aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des airballs à 3 points. J'ai jamais été parfait. Moi, mon but, c'était de jouer avec le sourire parce que je savais que une carrière, ça va tellement vite et que ça fait 10 ans que j'ai quitté la NBA. Et donc, moi, c'était pour prendre le plaisir sur le terrain, sans me prendre la tête. Et puis, ça a été toujours mon go-to, c'est-à-dire one life to live, enjoy basketball. Et puis, on verra par la suite.
Tiens, oui, Sacha, vas-y.
Ouais, justement, sur Dwight Howard, ce qui a pu aussi le pousser vers ce déclin, c'est qu'il le disait à l'époque, il avait une hygiène de vie qui était désastreuse. Alors, Mike nous dit qu'il était bien à la salle, etc. Mais apparemment, dans ce qu'il mangeait, c'était vraiment n'importe quoi. C'était fast-food et bonbons tous les jours. Il était vraiment comme un gamin. Et il y a aussi un truc qui, je trouve, a été symptomatique dans son déclin. C'est à un moment donné, c'était la mode de faire des camps d'été avec Hakeem Olajuwon. Tout le monde l'avait fait. Kobe l'avait fait quelques années avant.
Il s'est payé $50,000, Hakeem, d'ailleurs.
Et tu sais, ça avait ajouté une belle palette à Kobe, hein. On voyait qu'ils s'en servaient, etc. Et ils avaient fait la même chose avec Dwight. Et franchement, quand vous voyez le début de saison de Dwight après Hakeem Olajuwon, je vous jure que on lui a mis en tête des choses, de prendre des shoots avec la planche en fadeaway, des trucs comme ça. Tu vois le début de saison, tu dis non, mais en fait, faut pas du tout qu'il fasse ça, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient en faire, et ils l'ont emmené vers une voie un petit peu floue.
Mais est-ce qu'il a pas voulu suivre aussi la tendance NBA, des pivots qui font autre chose?
Oui.
Après, le jeu NBA a évolué.
Il a voulu suivre.
On est au début de ça, je pense. Je pense qu'on est au début de ça.
Mais à l'époque où il joue ballon intérieur sur du post-up, et on le sait faire. Mais sauf que la NBA a tellement évolué sur le tir à 3 points et que les grands aujourd'hui savaient tout faire. Peut-être que lui s'est dit, si je veux continuer à exister dans cette ligue, il faut peut-être que je me réinvente aussi.
Mais il s'est peut-être réinventé trop tôt. Ouais. Je suis d'accord avec ça.
Pour l'anecdote, la franchise qu'il relance, c'est Atlanta, parce que c'est là où il refait une bonne saison qui lui permet de retrouver des clubs. À l'intersaison, il dit à Atlanta, je pense que je vais commencer à tirer à 3 points. Le lendemain, il se fait virer d'Atlanta.
C'est pour l'anecdote. Mike, dis-nous juste un mot pour terminer de l'équipe de France, puisque tu es un amoureux de basket,
Je vais terminer avec Dwight Howard. Ça n'a rien à voir avec le Olajuwon, parce que des joueurs, on peut s'entraîner et essayer d'améliorer son geste. Mais je pense que vraiment, ce qui l'a perturbé, c'était la Mamba mentality. C'est dès qu'il est arrivé aux Lakers, où il a perdu tout son basket, et puis il est parti à Houston, ça n'a jamais été le même joueur. Alors qu'Orlando, on lui filait les clés de la maison, on allait lui nommer une rue à son nom. Et puis là, il a voulu partir pour diverses raisons que moi je connais, mais je ne parlerai pas à la radio. Et puis voilà, ça a été comme ça.
Bon, voilà, on a fait le tour pour Dwight Howard. Merci beaucoup, Mike. Juste, est-ce que tu es confiant pour les Bleus, là, pour
Mais
les
moi,
JO?
j'ai écouté Fred. Moi, je pense qu'il va falloir changer le système. Je pense que le système n'est pas adapté aux joueurs qu'on a sur le terrain. C'est-à-dire que...
Mais est-ce qu'on en est capable, Mike? C'est ça le problème.
Est-ce qu'on est capable?
Je suis d'accord avec toi, sauf que pour l'instant, on m'a pas donné de preuve de cette capacité.
Pour l'instant, moi, quand je regarde l'Allemagne jouer, l'Allemagne, ils ont produit un jeu très européen que Fred jouait à l'époque, c'était à l'ancienne. Et donc, nous, on n'a pas encore ce jeu. C'est-à-dire qu'on a des pivots qui ne sont pas adaptés au bon système. Donc, il va falloir trouver tout un système. Et pour pouvoir bien intégrer Victor Wembanyama l'été prochain, parce qu'il va être très attendu en France, à Paris, et donc lui va vouloir montrer qu'il peut mettre la France sur son dos. Donc c'est étudier le système pour le mettre en avant et toute cette équipe pour qu'on puisse pas être ridicule l'été prochain, quoi.
Mike Pietrus, donc dans Basket Time sur RMC, c'était un spécial Orlando Magic.
RMC Basket Time.